Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Mosco Lévy-Boucco pour les FTP MOI Paris-Toulouse 1942-1944, dont le DVD vient de paraître chez Arte Éditions avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Les FTP MOI, ce sont deux films documentaires. Le premier, Ni travail, ni famille, ni patrie, a été réalisé en 1993, c'est bien ça ? Et des terroristes à la retraite, qui date de 1985. Pour ces deux documentaires, vous avez rencontré, à l'époque, donc, d'anciens francs-tireurs partisans, issus de la main-d'œuvre émigrée, dont beaucoup étaient juifs, certains étaient des anciens de la guerre d'Espagne, et d'autres des survivants du groupe Manouchian. Face à la caméra, ils racontent leur histoire et rejouent certaines scènes marquantes de leur vie de résistant. On va revenir à ces témoignages avec vous, Mosco Lévy-Boucco, mais je voudrais d'abord savoir ce que ça signifie pour vous, cette édition en DVD, 20 ans, 30 ans après la sortie de ces films, alors que nombre de vos témoins ont disparu aujourd'hui.
C'est une manière de leur redonner vie, de les maintenir en vie. Et c'était en même temps une manière de maintenir en vie ce film. Une édition DVD, ça sert un peu à ça.
Depuis le tournage de ces films, on l'a dit, le temps a passé, la recherche historiographique a évolué, elle aussi. C'est pour ça qu'il vous a semblé important de rajouter des compléments comme l'interview de l'historien Stéphane Courtois ou encore de Serge Klarsfeld.
Oui, mais j'ai dû en éliminer certains parce qu'il y avait un espace qui était bien précis. Et par exemple, j'ai dû sacrifier le témoignage de Franck Liègre, qui est un jeune historien qui travaille et professe près de Nantes, dans la région de Nantes, et qui, lui, a eu accès aux archives de police. Mmh. Donc, il a pu vérifier certaines choses.
Pour l'affaire Manouchian, particulièrement ?
Pour l'ensemble des choses, si vous voulez. L'affaire Manouchian, juste en deux mots, si vous voulez. Pour moi, le fait qu'ils aient été arrêtés ne fait aucun doute. Si vous voulez, la police fait son travail, quelle que soit la période, quel que soit le pays. Le problème n'était pas dans ce domaine-là. Non, lui a eu accès aux archives de police pour vérifier si tel attentat raconté par tel témoin avait vraiment produit l'effet que le témoin décrit.
Voilà.
Et ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Si vous voulez, la police arrivait sur les lieux, trouvait certaines choses, et ça ne correspondait pas exactement. Par exemple, un attentat à Parc-Monceau, le colonel n'avait pas été exécuté, il avait été blessé.
D'accord. Ah oui, donc il y a un rétablissement.
Il y a un rétablissement des faits à partir des archives, des constats de police.
D'accord. Je voudrais qu'on revienne tout d'abord au premier de ces deux films, donc d'un point de vue chronologique, c'est Des terroristes à la retraite.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé, Mosco Lévy-Boucco, à aller à la rencontre de ces survivants du groupe Manouchian ? Qu'est-ce que ça signifiait pour vous ?
Je pense que c'est un jeu de mots, mais c'est un peu vrai. J'ai cherché mon père et en fait, j'ai retrouvé des repères.
Mm-hmm.
Donc si vous voulez, disons que pour moi, jeune juif immigré, le poids de la Shoah était très lourd à porter et j'ai voulu m'en écarter en allant chercher des résistants, pas des victimes, des résistants. Mmh. Et donc, un ami comédien, Gérard de Sarthe, avait compris ça. Moi, je l'ai rencontré à l'école, quand j'étais à l'école de cinéma. Il m'a dirigé, lui, vers l'affiche rouge. Et donc, j'ai trouvé le livre de Philippe Gagné-Raymond, je l'ai lu. Après, j'ai cherché le livre de Gaston Laroche. Et j'ai trouvé là ce qui me faisait vibrer, ce qui me donnait envie de résister, de ne pas supporter le poids, si vous voulez, de la Shoah, mais de résister à la Shoah, au souvenir de la Shoah. Et j'ai fait ce film un peu avec ce sentiment-là.
Ce qui est également frappant, c'est que ces francs-tireurs sont très loin de l'image traditionnelle de la résistance française.
Voilà.
Ils ont des accents très forts.
Voilà.
Ils sont d'origine modeste. Pour la plupart, c'était ça qui vous intéressait aussi.
Écoutez, moi, je ne vous cache pas que moi, je n'aime pas beaucoup les statues. J'aime beaucoup, beaucoup les gens que je rencontre dans leurs établis, etc. Et je ne vous cache pas que quand le film a été censuré, j'ai eu la chance...
Pour quelle raison il a été censuré ?
Le Parti communiste s'y est opposé. Il a fait pression pour que le film soit déprogrammé. Et puis après, pour qu'il soit censuré. Et c'est Simone Signoret qui m'a défendu. Et j'ai assisté notamment...
Oui, parce que c'est Simone Signoret qui fait la
qui fait le commentaire.
Qui a fait
le commentaire d'une manière, gracieuse, bénévole. Mm-hmm. Et elle a téléphoné, par exemple, à une grande figure de la résistance, qui est Lucie Aubrac, je ne veux pas le cacher. Malheureusement, elle n'est plus là pour répondre. Mais elle l'a appelée en lui disant... Mais pourquoi tu as voté la censure ? Parce qu'elle avait voté la censure. Et elle lui avait répondu au téléphone, mais écoute, ces gens parlent mal, ils sont dans des lieux, ils parlent dans des lieux qui sont vraiment pas très beaux. Et elle lui avait dit, alors donc, pour parler de la résistance, il faut être debout sur un cheval ou devant sa bibliothèque. Alors, moi, je suis plus attiré par ces gens-là, par ces gens humbles qui sont comme moi, en fin de compte. Et il me donne envie de résister, alors que Jean Moulin, c'est une figure forte, le général de Gaulle, c'est aussi une grande figure, ben, je me sens tout petit devant ces gens-là. Mmh. Alors que devant Kojitski ou Lamberger, ben, je me sens un oncle ou un frère ou un cousin, voilà.
Mais c'est ça aussi qui est dur, c'est-à-dire que ce sont des immigrés, pour la plupart juifs, souvent très jeunes, qui se sont battus contre le nazisme et pour la France. Certains n'ont pas réussi à obtenir la nationalité française malgré leur fait de résistance, et ils sont retombés ensuite dans l'anonymat.
D'une part, je voulais effectivement leur rendre vie, c'est-à-dire les maintenir en vie, mais d'autre part, c'est réparer une injustice. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment les héros de mon... dont je rêvais adolescent. Et d'ailleurs, je me bats encore aujourd'hui, par exemple, pour qu'un des derniers survivants, Raymond Kojitski, qui a été enfin honoré par la mairie de Paris, soit aussi honoré d'une Légion d'honneur. Pas pour lui, mais en tout cas pour ses grands-parents.
Est-ce que ça a été facile, justement, de les faire parler? Est-ce qu'ils avaient déjà témoigné comme ça avec
Non, ils n'avaient pas témoigné. J'ai eu un peu de mal à les trouver d'ailleurs, mais enfin, à l'époque, il y avait encore un annuaire qui était palpable, donc j'ai retrouvé Jacques Farber d'abord. En retrouvant Jacques Farber, je suis allé à l'association des anciens de l'UJRE, et là j'ai retrouvé Charles Mitzflicker, et ainsi de suite. Et donc, une fois qu'on s'approche d'eux et qu'on leur parle, et que ça n'avait pas été difficile parce que je pense qu'ils avaient envie de parler. Et d'ailleurs, ce qui est un des moments les plus surprenants pour moi, c'est quand le film a été projeté à la Cinémathèque française, le fils de Charles Mitzflicker est sorti de la projection en disant « Mais je ne savais pas que mon père avait fait ça. » Son père ne le lui avait jamais raconté.
C'est vrai que c'est extrêmement étonnant, c'est-à-dire qu'ils parlent très librement et ils se remettent réellement dans la peau de ces jeunes terroristes qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire que vous les faites rejouer et ils se prêtent à ce jeu.
Je ne les faisais pas rejouer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je suis allé d'abord les écouter chez eux. Puis après, comme je ne comprenais pas tout ce qu'ils me racontent, enfin concrètement, parce que ça me plaisait ce qu'ils avaient fait quand même, parce qu'il y avait une certaine ingénuité et ingéniosité.
Oui.
Bon. Donc, par exemple, l'attentat au métro Barbès, je voulais voir comment ça s'était passé. Donc, il m'amenait sur les lieux et je me suis rendu compte qu'il prenait plaisir il ne racontait pas seulement avec les mots, mais il racontait aussi avec les mains, les pieds, le corps, etc. Et je me suis dit, pourquoi je me priverais de cette langue-là, la langue du corps, la langue du... Et par exemple, alors, au métro Barbès, en allant sur les lieux, j'ai découvert une vérité forte qui ne sera pas celle que reproduira par exemple Costa Gavras quand il fera le film Section Spéciale, où il reconstitue l'attentat du métro Barbès, mais il ne le reconstitue pas comme ça s'est passé, parce qu'il y a un élément d'ingéniosité des combattants qui ont organisé cet attentat qui devient très esthétique, très beau, dans le film de Costa Gavras. Et l'élément d'ingéniosité, c'est qu'ils ont cherché pendant des jours et des jours une station de métro dont la sortie se trouvait en face des premières classes.
Ah oui.
Pourquoi ? Parce que les Allemands montaient en première classe et que s'ils voulaient exécuter un Allemand et disparaître de la vue des autres, il fallait trouver une station dont la sortie se trouvait en face des premières classes. Or, dans le film de Costa Gavras, celui qui tue, Fabien, exécute l'Allemand, il court au ralenti vers le fond de la station.
Ah oui.
Et ça, pour eux, c'est une erreur, mais cinématographiquement, c'est beaucoup plus beau, évidemment.
Mais c'est ça qui est très particulier dans votre film, c'est-à-dire que vous vous interrogez des résistants qui ont participé donc à la grande histoire et ils vous racontent leur quotidien, comment on faisait une bombe, leur première attaque, enfin leur quotidien, disons qu'ils le racontent en tant qu'être humain et non pas en tant que statue. C'est ça peut-être qui a choqué aussi le Parti communiste en l'occurrence
Je crois pas, non, parce que le Parti communiste c'est quand même le parti des gens humbles. Donc non, je pense qu'ils...
Mythification, on va dire.
Oui. D'ailleurs, j'avais fait un petit papier après sur les statues et les hommes. On démystifie un peu les choses. On parle d'hémorroïdes.
Oui,
c'est ça la résistance. comment dire, c'est pas facile de tuer, par exemple, ni travail, ni famille, ni patrie. Par exemple, quelqu'un est obligé à un moment donné d'utiliser son couteau pour abattre un Allemand. L'ordre, c'est, il faut abattre des Allemands. Il faut installer la peur au sein de l'armée allemande. En tuant un, deux, trois, avec le peu de moyens qu'ils avaient. Ben, c'est ça, la résistance. C'est un travail, c'est un sale travail. Mmh. Et ils ont été obligés de faire ce sale travail-là. Ils l'ont fait sans aucun plaisir. Mais ils ont dû le faire en militant, obéissant, convaincus que c'est le travail qu'ils devaient faire.
Justement, ces immigrés d'origine juive se sont engagés dans les FTP parce qu'ils étaient communistes, mais aussi parce qu'ils étaient persécutés, contraints pour certains à la clandestinité et qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Pour beaucoup, on voit aussi que le fait d'avoir vu leur famille se faire déporter a été déterminant dans leur engagement.
Oui, oui, ça c'est je pense que c'est, oui, c'est un élément déterminant, mais... Et c'est là où le témoignage de Serge Klarsfeld dans les bonus du coffret, Serge m'a fait remarquer que c'est quand même étrange que ces détachements FTP et MOI ne soient jamais pris aux dirigeants de la solution finale. Mmh. C'est-à-dire qu'ils s'en sont pris à des objectifs, disons, français, Ritter, qui s'occupait du STO, ils s'en sont pris aussi au général commandant du tout Paris, mais ils ne s'en sont jamais pris aux exécutants allemands de la solution finale. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait dérailler ou empêcher des trains de déportés d'arriver à destination. Et c'est Serge Klarsfeld qui m'a fait remarquer ça. Mais cela dit, l'adhésion à ce combat-là, c'est d'une part parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils ont la rage. Par exemple, Émile Jakubowicz pensait qu'ils allaient venir rafler des hommes. Or, il était caché dans un grenier. Il a vu sa mère et sa sœur être raflé par la police française, cette rage-là, il l'a gardée en allant en Toulouse. Mmh. Donc il y a eu d'une part la rage, et d'autre part, c'était des militants obéissants. Ils avaient reçu l'ordre de le faire, donc ils se sentaient le devoir de le faire.
Et donc en gros, c'est en tout cas ce que dit Serge Klarsfeld, c'est-à-dire qu'ils se sont soumis à la volonté du Parti communiste, oui, qui n'avait peut-être pas forcément le même but qu'avait en s'engageant dans la résistance.
Klarsfeld dit qu'ils se sentaient plus communistes que juifs, voilà. Qui chez eux, disons que l'identité communiste a prévalu sur l'identité juive. Mais je pense que l'identité juive, c'est celle qui les a amenés à ce combat-là. Mmh. C'est celle qui les a poussés à combattre avec les armes, les peu d'armes qu'ils avaient.
Pourtant, c'est vrai que les témoignages à la fin des terroristes à la retraite, oui. On voit quand même...
Je n'ai pas assez fait, oui.
Mais c'est le
je pense que c'est un sentiment, oui. C'est le combat contre le nazisme qui prime. Et ils disent, je n'ai pas assez fait. Ouais. J'aurais pu faire encore davantage, comme ils disent. Oui, bien sûr, mais c'est avec le regard d'aujourd'hui. Peut-être pas avec le regard d'hier.
On va peut-être parler du second documentaire, donc « Ni travail, ni famille, ni patrie », qui s'intéresse cette fois à la 35e brigade FTP MOI à Toulouse. C'est bien ça?
Oui. Si vous voulez, bon, dans le premier film, Simone Signoret m'a fait rencontrer les deux frères. Et donc, il y a Raymond Lévy qui avait écrit un livre sur son expérience de militant du Parti communiste, qui s'appelle Schwarzenmurz. Et puis Claude Lévy qui est un médecin, biologiste, et qui avait écrit un livre avec Paul Tillard sous la rafle du Veldiv. Elle m'avait dit d'aller les voir parce qu'il y avait ce que disait, pour vérifier un peu ce que disait Madame Manouchian sur l'effacement du combat des étrangers. Et donc, il m'avait conforté dans ce sentiment-là en me disant « il s'est passé la même chose à Toulouse ». Et du coup, je me suis intéressé aussi à Toulouse, où j'ai rencontré des gens que je trouvais aussi passionnants. C'est une histoire un peu semblable, mais diverse en même temps. Et je me suis dit « bon, alors faisons ça aussi ». Je crois que j'avais demandé de l'argent à la mairie de Toulouse, qui m'a donné une petite somme. Je me dis, allez, faisons un film avec ça. Je suis sûr qu'aucune télévision n'acceptera de le diffuser, puisqu'il y avait le précédent film. Et puis finalement, Arte est entré dans la production de ce film, et j'ai pu faire également l'histoire de Toulouse, qui est un peu différente, parce qu'il y a la présence de l'Espagne aux portes de Toulouse, en quelque sorte. Et puis d'autre part, la milice est là. Pétain est là, alors qu'il est beaucoup moins présent à Paris.
Il y a justement d'anciens combattants de la garde d'Espagne.
Alors il y a des gens qui sont revenus vaincus d'Espagne, qui se sont retrouvés pas loin de Toulouse, et donc ils se croisent à Toulouse dans les années 42, et c'est là où le parti leur dit, écoutez, utilisez votre expérience espagnole pour essayer de former des détachements et de vous en prendre à la fois à l'armée de Pétain, enfin à la police de Pétain, et à la présence allemande à Toulouse.
Alors donc là, c'est effectivement un autre lieu, un autre groupe, mais le processus est le même.
Si vous voulez, mon regard était le même, si vous voulez. Ce qui me plaisait, c'était des gens humbles, des gens modestes, qui ne sont pas faits pour les armes. Certains avaient fait la guerre d'Espagne, oui, mais les autres, non. Les jeunes n'avaient pas fait la guerre d'Espagne. Il y avait des très jeunes gens.
Et des femmes aussi.
Il y avait des femmes, voilà. Donc ça, il y avait une présence féminine qui était très importante. Mais ils étaient jeunes, ils avaient 18 ans. Par exemple, Émile Jakubowicz fuit Paris. Il va à la gare d'Austerlitz, il se cache, il arrive à Toulouse et là, il cherche. Les deux frères Lévy sont très jeunes, ils ont 18 ans. Catherine Étain, qui sera l'adjointe du responsable de la 35e brigade, elle a 18 ans, c'est une jeune fille. Pareil pour Sophie Amirlac. Donc la jeunesse m'attirait beaucoup. Donc la présence féminine également. Et puis la guerre d'Espagne, ils en avaient à découvrir avec le fascisme. Là aussi, j'ai recomposé. Il y avait des témoins qui avaient vécu la même chose. Et c'était donc comme un roman. On peut reconstituer une histoire puisqu'ils avaient vécu la même période au sein d'un même combat.
On le voit aussi dans ce documentaire, donc Ni travail ni famille ni patrie, que le destin de ces femmes et de ces hommes résistants est parfois amer. Certains ont été abandonnés, trahis par le Parti communiste. Mais pourtant, il n'y a aucun regret chez eux. Ou il y en
alors,
a
alors, non, ils n'ont pas été abandonnés.
Par rapport à la résistance.
Alors, là, il faut que je corrige enfin, les choses, parce qu'à chaque fois, on me dit qu'ils ont été abandonnés par le Parti communiste. Non, parce que le Parti communiste, d'abord, était un Parti communiste clandestin.
Non, mais ceux qui sont partis en Pologne...
Ah voilà, ils ont été massacrés par l'appareil communiste dans les pays de l'Est. Ça, oui. Par exemple, beaucoup d'entre eux ont été convoqués dans les années 50, qui a eu les grandes vagues d'antisémitisme, les procès staliniens, convoqués à la police, et la police leur demandait nom, prénom, et ils donnaient leur nom et leur prénom de la guerre. Non, disait-il. La police disait non. Le vrai nom, Simon Baruc. Et donc, oui... C'était des militants communistes, mais disons que l'appareil les a trahis.
Ouais, et ça, ce parcours, il est extrêmement visible dans ces fusillades. C'était important l'engagement qu'ils ont pu avoir pendant la guerre pour finalement se retrouver broyés.
Oui, c'était important pour moi de le dire. C'était vraiment, comment dire, moi personnellement, je me sens d'une part juif, d'autre part attiré par le communisme. En tant que réalisateur, je m'interdis d'adhérer à un mouvement. Je dois garder ma liberté de réalisateur. Donc, je me sens profondément communiste, mais j'ai une immense colère à l'égard des appareils communistes. Parce qu'ils n'ont pas été communistes avec ces communistes-là. Les militants étaient des vrais communistes. Les appareils ne l'ont pas été.
Ils sont devenus cadres, certains d'entre eux ?
Certains d'entre eux, oui. Et c'est ça qui est terrible. Mais quand vous pensez, par exemple, que Liz London, au procès de son mari, elle a accusé son mari. Et elle avait deux enfants de cet homme et elle l'a quand même accusé. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible qui, moi, me conforte dans mon sentiment de ne pas adhérer. Il ne faut pas prendre une carte. Il ne faut pas devenir des hommes d'église. Il faut garder, comment dire, ses convictions morales, ses valeurs morales, mais il ne faut pas devenir un homme de parti.
On va revenir un petit peu justement au bonus qu'il y a dans le DVD, et notamment l'entretien avec Stéphane Courtois, qui est assez éclairant, peut-être plus particulièrement sur le premier documentaire, et notamment sur le fait que les cadres, là, dans le cas précis, la ferme Nouchon, ont été exfiltrés parce qu'il y avait justement la volonté de conserver élite, on va dire.
C'est une pratique communiste, mais en même temps... C'est une pratique communiste et puis c'est une pratique malheureusement militaire, si vous voulez. C'est pas... Moi, si vous voulez, ce qui a fait débat et ce qui fait toujours débat pour moi, c'est est-ce qu'il y a eu, oui ou non, un débat interne. Et moi, je suis convaincu...
Au sujet de l'affaire Manouchian.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens se savaient suivis, se sentaient suivis. Un des leurs avait été arrêté. Ils savaient qu'il avait parlé. Ils savaient que le terrain était miné. Est-ce que oui ou non, on les exfiltre momentanément ou est-ce qu'on les maintient sur le front? Parce que celui qui part est considéré comme déserteur. s'il part de son ouais. propre chef, il est considéré comme
oui,
déserteur.
Oui, puis à l'époque, c'était pas...
Donc moi, c'est un combat clandestin, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de papier. Moi, je suis convaincu que ça a eu lieu. Il y a différents petits éléments. Il y a par exemple un historien communiste qui, je pense, est un honnête homme, qui a glané des informations, qui s'appelle David Diamant. Et dans un recueil qui s'appelle « Jeunes combats », il y a un article sur le film « Des terroristes à la retraite ». Et il évoque des tensions entre Manouchian et les cadres.
Les cadres, c'est-à-dire Holban qui a interviewé...
Non, absolument pas. D'accord. Justement, Holban, je lui ai montré, il m'a dit « Je n'étais plus là, donc je suis hors circuit. Mm. Il faut voir d'autres personnes. » Gronowski, qui était le trait d'union politique entre le Parti communiste et les MOI, dit « Mais dans chaque guerre, on sacrifie des gens. » Bon, c'est déjà une révélation forte pour
absolument.
Moi. Bon, c'est Gagné Raymond qui a été au-delà en disant « Je pense que ces gens ont été abandonnés à leur sort. »
Et un des intervenants dit « Parce que justement, ils étaient immigrés, juifs... »
Il a peut-être été un peu loin. Mm-hmm. Parce que peut-être qu'ils étaient immigrés, juifs, mais en 44 ou en 43, quand ils ont été arrêtés, cet élément n'entrait pas en jeu à ce moment-là. C'est plus tard qu'on a essayé d'effacer les choses, mm-hmm. etc.
C'est-à-dire de donner à la résistance française
vision...
un visage un peu plus...
Oui, mais je ne pense pas qu'il l'avait en 43. Je ne pense pas qu'en 43, on disait non, ils ne sont plus utiles, ils ont des noms à coucher dehors, abandonnons-les. Je pense que ça a été... Ce n'est pas un ordre du parti de dire sacrifions-les. Mmh. Absolument pas. Ce serait ridicule de le prétendre. Le Parti communiste à l'époque est clandestin, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Etc. Je pense qu'il y a eu des tensions au sein des FTP et MOI parisiens, et que certains cadres, en bons militants communistes, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, n'ont pas eu des réactions à l'égard de ces gens qui étaient menacés. Une réaction humaine pour sauver ces gens qui étaient menacés. Ils ont une réaction de militants, obéissants, une réaction militaire.
Militaire, oui, voilà. Absolument. C'est-à-dire de les laisser au
voilà.
front.
Donc, mais il faut le dire, ça, il faut le dire. Christelle, je vous ai vu pour un film que j'avais fait sur les Brigades Rouges. Eh bien, c'est pareil. Les Brigades Rouges aussi, c'est un combat clandestin. Il y a des tensions entre les gens. Le combat clandestin n'est pas un combat où on arrive la chemise ouverte et on combat l'Allemand la chemise ouverte. Mmh. Non, c'est pas comme ça.
Eh bien, j'invite tous les auditeurs à voir donc ce DVD, les FTP MOI, qui vient de sortir chez Arte Éditions, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci beaucoup, Mosco Lévy-Boucaud, d'être venu.
Merci, Christelle.
C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.